السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, inshallah, nous allons essayer de présenter quelques éléments de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des éléments pris avant la révélation. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Toutes les louanges vont à Allah. Toutes les louanges vont à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les non-croyants donnent des égaux à leur Seigneur. Toutes les louanges vont à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges et des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est capable de toutes choses. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Son Seigneur l'a envoyé comme guide, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Par lui, Allah a ravivé les cœurs. Par lui, Allah a éclairé les esprits. Par lui, Allah a fait que les oreilles entendent et que les yeux voient. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons et tous ceux qui les suivront dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, de nos jours, les nations s'attachent à des symboles, à des souvenirs, à un tel point que ceux-ci sont divinisés et encensés nuit et jour. Quant à nous autres musulmans, nous n'avons pas dans ce bas monde d'éléments ou de rituels que nous divinisons. Nous avons un homme qu'Allah a élevé pour être notre imam, et notre modèle, tout en étant exempt de fautes. Il est un exemple pour nous, tout en étant le plus honnête. Il est notre professeur, tout en étant une lumière. Allah dit, « Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoquer Allah fréquemment. » Il était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Il ne possédait ni plume, ni livre, ni porte-document. Mais Allah a choisi son cœur pour y placer la révélation divine. Alors, il a retenu tout le Coran par cœur. Les gens ont des symboles, des idoles, des maîtres qui répandent le sang, pillent les richesses et tyrannisent les peuples. Et nous autres musulmans, nous avons un homme dont les qualités sont la chasteté, la pureté, l'intégrité, la justice, et la vérité. La mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Amina, raconte « Je l'ai porté dans mon ventre, mais je n'ai jamais senti les désagréments d'une grossesse. » Et avant la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son père mourut. Il fut donc orphelin de père de naissance. Il ne connut jamais son père. Quant à Amina, sa mère, elle ne resta que très peu de temps à ses côtés et mourut alors qu'il était encore enfant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était donc un orphelin de père et de mère, avec ce que cela implique, comme précarité, pauvreté, faim et soif. Cela afin que son attachement à Allah soit plus fort encore. Avant le décès de sa mère Amina, il fut emmené chez Halima, qui allait devenir sa nourrice. Elle vivait en dehors de la ville. Halima raconte « Nous vivions dans une pauvreté extrême, dans une région très aride. Je jure par Allah que cette année-là, il ne tomba aucune goutte de pluie et rien ne poussa dans nos terres. » Et lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, les nuages emplirent le ciel et il plut, jusqu'à ce que des petits cours d'eau commencèrent à couler et que les vallées furent couvertes de verdure. Les gens pouvaient traire leurs bêtes abondamment jusqu'à ce qu'ils aient rempli tous les ustensiles. Les gens vivaient alors dans l'aisance. Halima, qui avait embrassé l'islam par la suite, racontera « Il sortit un jour avec son frère de lait. Il était berger et il gardait un troupeau. » Oui, mes frères, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être berger de l'humanité, fut le berger de troupeaux de bêtes. Halima continue son récit. Et lorsqu'ils sortirent ce jour-là, pour aller garder les bêtes, deux hommes vinrent à eux. L'un d'eux ouvrit la poitrine du prophète et retira un point noir de son cœur. Qui donc ces hommes étaient ces hommes, mes frères? Il s'agit là de deux anges envoyés par Allah le Très-Haut. Ces anges avaient en leur possession un récipient en or dans lequel il y avait de l'eau bénie de Zamzam. Ils s'approchèrent en effet du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ouvrirent sa poitrine bénie. D'ailleurs, certains commentateurs du Coran prétendent que c'est à cet épisode que fait référence le verset suivant. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Après avoir ouvert sa poitrine, les anges ôtèrent de son cœur un point noir. En effet, mes frères, chacun de nous a dans le cœur ce point noir qui contient la jalousie et la haine, la trahison et la rancune. Ensuite, les anges lavèrent le cœur du prophète. Ils lavèrent le cœur du prophète avec de l'eau de Zamzam. Puis, par la grâce d'Allah, ils remplirent son cœur de sagesse et de foi. Ils fermèrent enfin la poitrine du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, ils s'en allèrent. Le compagnon Anas, radiallahu anhu, racontera beaucoup plus tard qu'il pouvait voir la cicatrice sur la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait à peu près 60 ans. Sur cet événement, le prophète fut apeuré. Il fut alors ramené à sa mère de lait, Halima, à laquelle l'histoire de l'ouverture de la poitrine fut racontée. Effrayée à son tour, elle décida de le raccompagner et de le rendre définitivement à sa vraie mère, Amina. Il retourna alors à Mecca, où il grandit dans la dignité et la fierté. Jamais il ne s'abaissa devant une idole. Jamais il ne but de boisson enivrante. Jamais il ne commit le vol, la traîtrise, le mensonge ou la tricherie. Il grandit donc orphelin et patienté dans la misère. Il ne savait ni lire ni écrire. Lorsqu'il a atteint l'âge de 25 ans, il était à la Mecque un modèle de pudeur, d'honnêteté, de droiture, de modestie. Mais malgré cette reconnaissance universelle dans la région, plus tard, alors que lui fut révélé qu'il était le messager d'Allah, ses contemporains le traiteront tout de même d'imposteur. En effet, plus tard, ils le feront passer pour un magicien, un charlatan, un poète fou. Mais son Seigneur, le Très-Haut, le défendra en disant dans le Coran: votre compagnon n'est nullement fou. Ou encore: ceci est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous ne vous rappelez que très peu. Comment pouvait-il être hier le digne de confiance, le véridique et le sincère, pour devenir par la suite le fou, le menteur, le voleur ou le magicien? Un jour, les habitants de la Mecque, les tribus de Quraysh, eurent une dispute à propos de la pierre noire. En effet, les Mécois avaient, avant la révélation, démoli la Kaaba. Ils l'avaient démolie pour mieux la reconstruire. Lorsqu'ils eurent achevé la reconstruction, ils eurent un désaccord concernant celui qui devait replacer la pierre noire dans le coin de la Kaaba. Les quatre tribus de Quraysh étaient à ce niveau dans le conflit, chaque tribu exigeant que ce soit l'un des siens qui replace la pierre noire. Le différend s'aggravait peu à peu et allait se transformer en lutte armée. Ils se mirent alors d'accord sur la proposition suivante. Le premier homme à entrer dans l'enceinte sacrée autour de la Kaaba allait prendre la décision. C'est alors qu'entra dans l'enceinte sacrée Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Cet épisode se produisit avant la révélation, époque où il était déjà considéré par tous comme l'homme digne de confiance. Dès qu'ils le virent, ils s'exclamèrent: voici Al-Amin, le digne de confiance. Nous acceptons son arbitrage, c'est Mohammed. Lorsqu'ils le mirent au courant de l'affaire, il décida de placer la pierre noire sur un vêtement, un manteau. Il demanda ensuite au chef de chacune des quatre tribus de prendre un coin de ce vêtement. Ainsi, chaque tribu participait à la remise en place de la pierre. Puis, lorsqu'ils portèrent le vêtement contenant la pierre jusqu'au coin de la Kaaba, il prit lui-même la pierre noire de sa main bénie et la remit à sa place dans le coin de la Kaaba. Le temps passait Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entrait dans la trentaine, il donnait les signes de quelqu'un que la vie de ce bas monde désintéresse. Le prophète, notre prophète, a toujours refusé de se soumettre à un autre Dieu que le Dieu unique, Allah le Très-Haut. Il s'était donc mis à la recherche de la vérité. Et bientôt, le Seigneur de toutes choses, Allah le Très-Haut, allait lui envoyer un émissaire de choix pour l'éclairer dans sa quête, l'ange Jibril, Gabriel. Les frères, jazakumullah khair, si vous pouvez vous rapprocher, essayez de combler au maximum les espaces vides devant vous. On me fait signe que les frères commencent à arriver et qu'il manque d'espace. Jazakumullah khair. Donc, notre Seigneur Allah le Très-Haut allait lui envoyer un émissaire de choix pour l'éclairer dans sa quête, l'ange Jibril, Gabriel, alayhi salam. Il sortait souvent de la ville de Mecca pour méditer. Pour cela, il avait pris l'habitude de s'installer dans la grotte de Hira, qui était située dans les hauteurs des banlieues de la Mecque, dans le mont Jabal, al-Nur, le mont de la lumière. Ce mont est à quelques kilomètres de la Mecque. Dans sa méditation, il s'adressait à Allah dans son cœur, car il savait que ce monde avait un Dieu créateur et bienfaiteur, qui mérite la reconnaissance et l'adoration. Il passait son temps à l'adoration et à la réflexion sur les signes de l'univers qui l'entouraient, ainsi que sur la puissance créatrice que ces signes cachaient. Mais à ce moment-là, il n'avait pas de livre qui lui expliquait cela. Il ne savait pas encore comment prier et adorer son Seigneur. Donc, il méditait dans cette grotte. Il y demeurait parfois plusieurs jours consécutifs, pris par ses pensées. Il redescendait vers son épouse Khadija, radiallahu anha, quelque temps, s'approvisionnait, puis il retournait à ses méditations dans la grotte, et ainsi de suite jusqu'au moment où la vérité apparut dans cette grotte. C'est en effet lors d'une de ces excursions que Allah envoya Jibril. L'ange Jibril est celui qui est chargé par Allah de transmettre ses messages. Donc ce jour-là, Jibril surprit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte. Il entra sous la forme humaine et lui dit, « Iqra, lis. » Il répondit, « Je ne sais pas lire. » Jibril répéta, « Iqra. » Il répondit, « Je ne sais pas lire. » Jibril répéta une troisième fois, « Iqra. » Il répondit, « Je ne sais pas lire. » Jibril le prit alors dans ses bras, il le serra très fort, et lui dicta ce qui allait être les premières paroles du livre sacré. Il lui récita les premiers versets du Coran et lui dit, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble ou le plus généreux. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quitta alors la grotte. Il descendait de Jabal al-Nur en regardant le ciel, car il fut surpris d'y voir Jibril, assis sur un trône entre le ciel et la terre. Il retourna tout tremblant chez lui auprès de Khadija, radiallahu anha. Il dit, « Couvre-moi, couvre-moi. » Et il ajouta, « J'ai craint pour ma vie. » Et il raconta à Khadija ce qu'il venait de vivre. Alors, Khadija lui répondit d'une réponse pleine de vérité, avec des mots pleins de sincérité, de justice et d'authenticité. Elle lui dit, « Je le jure par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens le lien de parenté, tu composes avec tout le monde. Tu assistes les nécessiteux, tu donnes de l'hospitalité aux hôtes et aides à faire triompher la vérité. » Mes frères, mes sœurs, il est du devoir de la communauté musulmane de mettre en évidence la vraie nature du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est du devoir des responsables, des intellectuels, des imams, de le citer dans les assemblées et lors de leurs discours, de mentionner la grandeur de sa personnalité et de son message. Car en effet, la plupart des grands de ce monde auxquels les gens font référence aujourd'hui sont tout simplement insignifiants devant la grandeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est notre modèle et notre imam. Il est l'imam des gens de la foi, l'imam de ceux qui prient 5 fois par jour, l'imam des véridiques et des sincères, et l'imam des rapprochés d'Allah. Quant aux gens fourbes, ils ont aussi leurs propres dirigeants et leurs propres imams. Nous demandons à Allah le Très-Haut qu'il rende forte et sincère notre fidélité envers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah le Très-Haut qu'il fasse de nous ses adeptes fidèles, qu'il nous abreuve du bassin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous ressuscite ensuite sous sa bannière, qu'il nous réunisse parmi les siens, qu'il nous guide vers sa sunna et qu'il nous réanime en nous le suivi de son modèle. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير pour votre écoute.